Moi, ma posture est un petit peu différente parce que je ne fais pas partie de ceux qui ont coordonné cet ouvrage. J'ai participé au colloque, mais en plus dans une autre dimension. Mais je vais expliquer ma posture et je vais surtout amener un regard en me prenant appui sur les chapitres de cet ouvrage. Mais en fait, les chapitres de cet ouvrage qui concernent la formation est déjà presque ancien par rapport à une forme de vitesse d'évolution des choses. Je vais m'expliquer. Juste pour vous dire d'où je parle, parce que c'est évidemment un regard toujours orienté, parce que parler de la formation, quand on est impliqué dans la formation, ça veut dire que c'est un regard orienté. Il n'y a aucune neutralité de ma part, donc je travaille sur l'environnement scolaire, je travaille sur l'école primaire avant tout, et moi je viens plutôt de l'étude de la langue au niveau du colloque, c'est là où je suis intervenu. Alors, les appuis pour cette intervention, c'est bien sûr les chapitres qui concernent ce colloque. Hein, je me suis appuyé. Donc, moi, j'ai vraiment fait un travail de synthèse. Je n'étais pas impliqué dans l'élaboration. Donc, j'ai pris chaque chapitre, je les ai lus et préparé mon regard un peu distancié, mais que je vais alimenter avec une autre intervention. C'est pour vous expliquer que le temps est une donnée très importante quand on essaye de faire le point sur la formation initiale. Je vais m'appuyer également sur une intervention qui est assez récente, 2025. Le colloque, c'est 2021. Et en 4 années, il s'est déjà passé plein de choses. Ce qui montre déjà une forme d'instabilité permanente, hein, une forme d'instabilité que je transformerai en insécurité. C'est jamais bon pour pouvoir avancer. Donc voilà, ça c'est l'appui que je vais utiliser. Alors un petit regard diachronique, il y a beaucoup de dates parce que en fait et également des institutions qui ont changé de nom tellement vite que par exemple sur Saint-Germain il y a des panneaux IUFM qui restaient encore sur la route. C'est assez rigolo parce que ça va tellement vite que même la signalétique n'arrive pas à suivre. On passe notre temps. Moi, je récupère des papiers de l'IUFM, comme ça, c'est des papiers gratuits.
Le bus s'appelle toujours École Normale.
École Normale, donc voilà. Donc, ce qu'il faut voir, la première chose qu'il faut voir et qui est pour moi très importante, c'est, alors on voit pas très bien, mais il y a une forme de succession de changements qui en devient assez étourdissant et qui sont très très bien détaillés. Pour ça, la partie 1 là-dessus est très 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 précise. Alors là, je vous montre la place du concours. Pourquoi je mets la place du concours? Parce que cette question du concours est très importante. Parce que le concours, hélas, je viens de donner mon avis, mais structure les choses d'une manière assez forte. Et dans la place qu'il prend en termes de date et de contenu. Donc en gros, je vous ai fait une petite animation pour vous expliquer l'évolution des choses. Donc dans les années 85-89, le concours il se fait avant de rentrer en première année et on a un DEUG. Moi je viens de là, c'est ce que j'ai fait. Je me souviens encore d'avoir passé ce concours. Puis après, j'ai été immédiatement mis en IUFM, j'étais dans la dernière année, et j'ai eu le droit à un deuxième concours. C'est-à-dire qu'on est rentré avec un concours, et il fallait en repasser un autre, donc je fais partie des gens qui ont refusé de passer le deuxième concours. Donc on s'est fait repérer. En fin de licence première année, ça c'est des années 90-2010. Puis après, il y a la masterisation, hein, on intègre l'IUFM au sein de l'université, ils deviennent composantes. Là, on a une nouveauté en 2011-2012, ça ne durait pas très longtemps, où une partie du concours est en fin de M1, l'autre partie en fin de M2. Vous imaginez bien, quand on a la place, un poids comme ça du concours sur des étudiants qui veulent devenir enseignants, et j'y reviendrai, ça pose des problématiques de formation, hein, parce qu'ils ne pensent pas à se projeter encore, hein, parce qu'ils n'ont pas le concours. Puis après, on a l'année 2013-2019, une grande période où là, on est en fin de M1, avec une année de M2 où on a des profils très hétérogènes, pas inintéressants, mais le concours est là. Donc là, je suis au niveau, hein, vous faut arriver à suivre avec au-dessus, on est dans l'ESPE. Puis après, au niveau de l'INSPE, la période dans laquelle je vis, c'est un concours en fin de ma M2 en ce moment, 2021-2025. Et pour l'avenir, on a failli changer de nom, on est toujours INSPE, c'est un concours en fin de L3. Donc vous voyez des formes de turbulence, d'instabilité, et évidemment ça a un effet sur le double processus dans lequel on est, où depuis en fait 2010, on est dans une universitarisation, et en même temps dans une professionnalisation, et en même temps on a une certification au milieu de tout ça. Un peu compliqué. Et vraiment, j'insiste sur le quoi, parce que le quand a beaucoup de variations, mais le quoi aussi pose un problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on demande? Alors, moi, ma formation, elle est en didactique du français, donc souvent, on regarde très précisément qu'est-ce qu'on demande au concours, parce que ça va devenir un poids dans nos formations initiales. Les étudiants, et c'est normal, attendent de notre part qu'on les prépare au concours. Et des fois, ça peut être un peu antinomique avec nous, une ambition de les préparer par l'université. J'arrive jamais à le dire ça. Par l'universitarisation. On les prépare à se projeter dans un métier, à avoir aussi une dimension de réflexion, de recherche. Donc on voit bien, il y a pas mal de choses qui sont là dans un creuset sur lequel l'étudiant ou le stagiaire, ça dépend de ton statut, se retrouve au milieu de tout ça et il doit composer avec cet ensemble. Alors, à la page, dans le chapitre 2, dans cet article sur les transformations du métier de professeur des écoles perçues à partir de l'investissement de la formation initiale par les étudiants, j'ai fait une focale parce que on trouve un schéma à la page 54 que je trouve assez intéressant. Schéma sur lequel il faut qu'on soit clair, c'est un schéma qui est une modélisation de la formation initiale, mais comme espace de transformation, de transaction de professionnalité. C'est-à-dire qu'au milieu de ça, on a quelqu'un qui sait qu'il va devenir enseignant. Parce que je vais un peu critiquer, entre guillemets, je vais me placer un peu en esprit critique de ce schéma-là, que je trouve intéressant, mais qui, pour moi, n'est pas adapté aujourd'hui dans ce qui se passe réellement. Donc, on nous explique dans ce chapitre, et par rapport à ce schéma, que concevoir l'espace de formation comme un espace de transaction où se rencontre un projet institutionnel traduit en dispositif de formation et un projet professionnel de la personne en formation confronté, lui, à une pluralité de modèles. Donc on voit bien déjà que dans ce modèle-là, où au centre on a quelqu'un qui sait qu'il va devenir enseignant, c'est déjà d'une très grande complexité, puisqu'on a le métier prescrit, on a l'institution qui attend des choses. Alors, je vais les cibler. Hein. On a un métier projeté par la personne qui se dit... Et souvent, ce métier projeté, il est intéressant parce que quand on les questionne un peu, certains n'ont pas revu une classe de primaire depuis le moment où ils étaient en primaire. Donc, vous imaginez bien que ce qu'ils projettent dans mon domaine, l'enseignement de la grammaire, c'est assez intéressant. Un peu angoissant, mais assez intéressant. Puis après, il y a les deux autres côtés de ce quadrilatère avec le métier en reconnaissance et le métier en construction. Alors, pourquoi j'ai pris ça comme analyse critique? Parce que je trouve que cette modélisation, elle est à questionner, et elle est à questionner à plusieurs niveaux. Déjà, qui est cette personne en formation qui se projetterait dans le métier? Aujourd'hui, sur l'Académie de Versailles, si vous vous souvenez de la diapo d'avant, nos étudiants en M1, M2, ils ne sont pas encore enseignants. Parce que le concours, ils vont le passer en fin de M2. Donc déjà, leur projection du métier, elle est un peu arrêtée par le fait qu'ils ne savent pas encore. Même s'ils ont un master de métier d'enseignement, ils ne savent pas encore s'ils vont être enseignants. Ce qui est assez exceptionnel, hein. Il n'y a qu'en France que ça arrive, ça. Deuxièmement, dans l'Académie de Versailles, nous n'avons pas un recrutement qui fait que l'ensemble de nos étudiants sont sûrs de vouloir être enseignants, en fait. On a même, aujourd'hui, parce qu'on les accepte, moi j'ai des étudiantes chinoises qui ne pourront jamais passer le concours. Donc vous voyez, déjà, ça re-questionne ce schéma-là, pour ces raisons-là. Et la dernière chose, donc on a des étudiants qui, en fait, ne seront pas enseignants. Et qui, au fur et à mesure du M1, M2, commencent à nous annoncer. Ils feront autre chose, ils font un master, en fait. Donc ça, c'est la première chose, déjà, que je questionne. Le concours en fin de M2, qui est une spécificité nationale, plus la spécificité de Versailles, qui n'arrive pas à recruter assez de personnes pour passer le concours. Hein. On a, je ne sais pas, je fais ça au feeling, mais 1500-1600 places l'année dernière, et après l'écrit, ils sont 700. Voilà. Donc, on voit bien le décalage. Hein. Et la question de la motivation des étudiants. Donc déjà, ce schéma-là ne peut pas coller tout à fait à une réalité. Alors, ce qui est assez amusant, c'est ce que les collègues qui proposent ça, c'est en 2021. Et en fait, moi, je parle déjà de 2026.
C'est la Normandie aussi.
Oui, et de plus en plus... Alors, beaucoup d'académies sont en train de découvrir la difficulté de recrutement. Avant, il n'y avait que Versailles, Créteil, Lille-la-Rive, la Guyane, Lyon commence à s'inquiéter parce qu'ils ont autant d'étudiants que de personnes au concours, etc. Donc c'est quelque chose, c'est un mouvement en fait. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a la réforme actuelle. Et l'autre chose que je questionne, c'est que dans ce schéma-là, on parle du projet de l'institution. Et moi, je questionne le fait que ce n'est pas au singulier qui se passe. Il y a différentes institutions. On est en plein dedans en ce moment. Je suis pilote du groupe de réflexion pour la réforme licence master. Et je me retrouve confronté avec le rectorat, qui a un projet, hein, sûrement, de formation initiale. Moi, en tant que chercheur, qui a aussi un projet, au fond de moi, institutionnel, hein, pour former les enseignants, plus d'autres collègues. Je pense qu'il faut mettre un S à ce truc-là. Le singulier ne suffit pas. Donc, tout ça, et la dernière chose dans cet article que je reprends, c'est la question des modèles. Parce que, évidemment, suivant les auteurs, alors il y a plusieurs auteurs, on trouve plusieurs modèles de formation. Je vais prendre quelque chose à voir. Évidemment, je me sèche. Il y a plusieurs modèles possibles. J'arrive. Il y a plusieurs modèles possibles. Et là aussi, ça m'a beaucoup intéressé, en fait, parce que c'est quelque chose qui était à mon niveau dans un non-dit. Et pour ça, la lecture de ces chapitres m'a beaucoup aidé à avancer. Donc, il y a plusieurs modèles. Un modèle académique assez classique, hein, où le maître instruit celui qui maîtrise les savoirs. J'ai peur que, dans les discussions que je vais avoir dans les réunions, certains aient ce modèle-là. Il y a le modèle artisanal ou technicien, où là, en gros, la formation, ça serait d'aller observer des maîtres reconnus comme par le compagnonnage, quoi, hein. Ce que je refuse, hein, bien sûr, ça suffira pas. Le modèle personnaliste, qui place au cœur de la formation la découverte progressive d'expériences professionnelles, et le modèle de l'acteur social critique. Alors ça, c'est pas du tout ce que demande l'institution, le ministère de l'Éducation nationale, hein, je vous rassure. Le modèle du praticien réflexif, il semble quand même, aujourd'hui, donc la question qu'on devrait se poser, c'est quel modèle de formation est visé. Je pense qu'il faut l'expliciter. Et aujourd'hui, le modèle du praticien réflexif est quand même celui qui est... alors maintenant, je l'explicite, mais c'est celui qui est la base de la réflexion et de ce que l'on fait depuis une dizaine d'années, me semble-t-il. Donc la réflexivité s'entend comme une pratique de pensée, manière de penser sa pratique et manière d'agir tout en pensant ce que l'on fait. Donc je pense qu'on est à peu près dans ce modèle-là. Alors, je vais finir en donnant... la problématique des tensions. Pourquoi ? Parce que... Et ça, c'est des choses que je suis allé chercher. Il n'y a pas vraiment... Il y a... Celui de Laurent en parle un peu, mais on peut aller chercher dans différents articles différents éléments pour alimenter ce que je vous montre là. La première tension, celle qui est la plus classique, c'est la tension évidemment, qui nous saute aux yeux, c'est cette tension entre professionnalisation et universitarisation dans la formation initiale. Il y a trois logiques. Si vous m'avez suivi, il y a trois logiques. Elles sont là. Il y a une logique de certification qui est très importante pour certains étudiants, même si on n'arrête pas de leur dire que dans l'Académie de Versailles, quand même, le concours, si on sait à peu près réfléchir, à peu près écrire, ça passe, même s'il y a des questions en maths qui leur posent beaucoup de problèmes quand même. Donc on a la place et les attentes du concours. Et est-ce qu'on est là pour se préparer au métier ou se préparer au concours ? Certains INSPE sont vraiment coincés. Je pense à l'INSPE de Toulouse que je connais bien, où là, une partie de la formation initiale en M1 et M2, elle est orientée concours, hein, parce que c'est sélectif. Évidemment, il y a la question de la professionnalisation, donc, où là, on a des articulations entre savoir académique, connaissances didactiques, mise en œuvre pédagogique, articuler les apports des formateurs et formatrices qui sont en plus pluricatégorielles dans nos INSPE. Hein. On peut avoir des enseignants-chercheurs, on peut avoir des enseignants qui viennent du second degré, d'autres qui viennent du premier degré, on peut avoir des gens à temps partagé, on peut avoir des contractuels. Il y a vraiment une très grande diversité des formateurs. Et la question des stages, j'y reviendrai dans la diapo suivante. Et enfin, il y a la question de la recherche, parce que depuis 2010, on est dans une masterisation. Si on est dans une masterisation, la recherche devrait être centrale. Et là, beaucoup de variables selon les réformes. Hein. Ils ont un mémoire à faire, mais là, il y a vraiment beaucoup de débats, des débats qui traversent les formateurs INSPE, hein, bien sûr, mais qui traverse aussi les différents ministères qui nous regardent. Hein. Il y a deux grands ministères de tutelle, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur. Est-ce qu'on est sur un mémoire professionnel, un mémoire universitaire? Comment on encadre? Si on était dans un vrai mémoire de master, les encadrements devraient être faits par des enseignants-chercheurs. C'est impossible. Dans un INSPE, c'est impossible. Hein. On regarde du nombre d'étudiants. Donc, il y a toute une réflexion autour de ça qui est intéressante et en même temps qui pose beaucoup de questions. Ce qui est en jeu dans la formation initiale, c'est bien la construction d'un rapport au métier en lien avec l'identité collective. J'essaye de garder une finalité importante parce que des fois, on l'oublie un peu. Et là, je me suis amusé à faire une diapositive très où j'ai tout mis, ce qui me passait dans ma lecture. J'ai attrapé plein de dilemmes et tensions. Donc, le premier, c'est vraiment celui de la diapo d'avant. Mais alors là, ça traverse. J'ai mis tout ce qui passe, tout ce que j'ai cru percevoir. J'ai essayé de classer avec des codes couleurs, mais je n'y suis pas. Il y a encore beaucoup de travail. Mais je vous les mets comme ça. Hein. La tension entre la formation académique versus une formation professionnelle. La tension entre les attentes et exigences d'une double tutelle. Aujourd'hui, elle est encore plus forte. Construire, est-ce qu'on est là pour construire un praticien réflexif ou un exécutant? Je fais exprès de le dire. Tout le monde annonce que c'est un praticien réflexif, comme tout le monde annonce que la grammaire est faite pour mieux lire et mieux écrire. Mais en fait, dans les pratiques, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est pareil pour là. Tout le monde annonce que, c'est, bien sûr, on veut un praticien réflexif. Mais quand même, ça serait bien qu'il exécute et qu'il obéisse à certaines injonctions. Des stages pour former ou simplement des moyens de remplacement. En permanence, on a cette question-là. Hein, parce que, soyons clairs, aujourd'hui, les stages, c'est surtout des moyens de remplacement. Donc, ça pose quand même des gros dilemmes. Hein, parce que accompagner et en même temps évaluer des jeunes qui débutent dans des classes qui sont plus ou moins faciles, avec des disparités entre les stages. Bon, je ne développe pas plus parce que vous devez avoir ça en tête. Une formation initiale pour se projeter à court, moyen ou long terme, là aussi, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on forme des M1, M2 pour qu'ils réussissent leur T1, titulaire première année, ou alors est-ce qu'on forme des M1, M2 pour qu'ils puissent continuer à se former et à évoluer dans leur carrière? L'alternance formation-stage qui se voudrait intégrative, mais vécue comme une succession de ruptures quand on est du côté des étudiants. La place de la recherche. Obtenir un diplôme, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, réussir un concours, débuter dans une classe. Vous voyez, là, je mets tout ça, mais ça montre bien, et ça va expliquer ma diapo suivante, la polyvalence qu'on n'oublie jamais parce qu'on est dans le premier degré. Quelle formation? Est-ce qu'on est dans la didactique professionnelle, la didactique disciplinaire? Comment articuler les deux? Articuler des enseignants-chercheurs, des pracs, des prêcs, des formateurs et formatrices du terrain. Jusqu'à présent, on devait avoir 33% de la formation assumée par des formateurs terrain, donc du rectorat. On n'y est pas arrivé. Et l'injonction nouvelle, c'est 50%. Donc, on n'arrive déjà pas à 33%. On nous donne une nouvelle injonction à 50%. Vous voyez dans quelle insécurité et instabilité cela nous place. Et enfin, la tension renforcée entre théorie et pratique. Il y a des questions. Donc ça, c'est très personnel, la dernière. L'utilité de l'universalisation. L'universalisation. C'est pas bon, ça. C'est pas celui-là. Tout le temps, je confonds. Hein. Pour la formation des PE, elle est toujours questionnée par certains mouvements politiques. Il faut le savoir. Certains pensent qu'on n'a pas besoin d'être à l'université pour former des enseignants du premier degré. Donc, résultat de tout ça, un peu surréaliste le résultat, à première vue, voilà ce qu'on forme, j'ai trouvé ça intéressant en lisant un des chapitres, on essaye de former un professeur caméléon, on n'y arrivera pas. Donc voilà, injonction multiple, apport didactique, peur de l'évaluation, faire la classe, réussir le concours, gérer le mémoire, une pluralité peu structurante, voire inconciliable, conséquence, l'embarras des étudiants pour construire une vision structurée du métier. C'est quand même notre réalité aujourd'hui. Et je rajoute le fait que sur l'Académie de Versailles, je le redis une deuxième fois, certains étudiants ne se projettent pas, en fait, pour plein de raisons. Pour conclure, j'ai pris trois extraits que je trouve très intéressants, que j'ai retrouvés en lisant les articles, les chapitres. Un extrait de 2012, pour vous montrer qu'il n'y a rien de nouveau. La formation des enseignants en France, et en particulier celle des enseignants du premier degré, est-elle condamnée à un compromis permanent entre d'inconciliables conceptions de la cohérence? Donc ça, c'est Pernoud qui pose une question. Moi, j'enlève le point d'interrogation aujourd'hui. Un large consensus sur le fait que la formation d'un enseignant doit être considérée comme un processus graduel comprenant une formation initiale, une phase d'accompagnement et un perfectionnement professionnel continu. Là-dessus, on partage tous les choses, sauf qu'on a l'impression que tout le monde nous tombe dessus en formation initiale. J'anime des réunions où, à première vue, tout le monde veut tout mettre en formation initiale. Ce qui est un vrai problème, en fait. On nous critique par des enquêtes internationales que la formation initiale en France n'est pas à la hauteur, mais la formation continue en France n'est pas à la hauteur. Deuxièmement, 2013, donc quelque chose qui renvoie, si je résume, dans le cadre d'une formation des enseignants, l'idée c'est vraiment de construire une pratique réflexive, donc c'est vraiment ça qui est important, l'idée d'avoir un cadre organisé, dénué d'enjeux de compétition, vous voyez un peu les ambitions qu'il y aurait, un cadre de travail organisé, dénué d'enjeux de compétition ou d'évaluation, c'est pas le cas aujourd'hui, dans un environnement psychologique positif, où les participants se sentent actifs, engagés, en situation d'entraide et de confiance autour d'un but commun, ce qui leur procure un sentiment d'appartenance à une communauté, c'est vraiment ça notre idéal. 2026, nous sommes encore loin de cette finalité. Voilà, j'ai terminé.